musique du monde. Laurence Alloa. Tegui Mfa Traoré. Musique du monde sur RFI.
Deux rendez-vous dans cette émission, la session live avec Batlik, un artiste français atypique, oui vous savez atypique un peu comme les maisons qu'on ne sait pas vendre, pour la sortie du nouveau disque L'Art de la Défaite, et Thomas Fetterman qui a réalisé le nouvel et dernier album de Rachita qui a disparu le 12 septembre 2018. L'album est disponible depuis hier et on ne va pas se priver de l'écouter. Je suis africain sonne aujourd'hui comme un aveu et surtout comme un testament. Bonsoir.
Je suis africain, africain du nord au sud. Je suis africain, dedans comme dehors. Je suis africain, je n'ai pas le rythme dans la peau. Je suis africain, un albinos afro.
Thomas Fetterman, c'est un entretien un peu particulier aujourd'hui puisque vous venez présenter l'album posthume de Rachita qui est décédé en 2018, le 12 septembre 2018. Vous êtes le producteur de cet album. Racontez-moi Rachid, racontez-moi l'enregistrement de cet album qui s'appelle « Je suis africain ».
Cet album, il a commencé en 2015, fin 2015. Quand moi je travaillais donc avec la Caravane Pass sur un nouveau titre qui s'appelait Baba, sur lequel on voulait Rachita. Donc Rachid vient à la maison pour enregistrer ce titre un soir. Quand on a fini d'enregistrer la voix, il me dit « Laisse tout brancher, on va créer maintenant ». Et donc de 23h à 3h du matin, je ne sais plus exactement les horaires, 4h du matin, on a enchaîné 12 chansons, guitare-voix, qui étaient des improvisations totales. C'était en octobre 2015. Et de ces 12 chansons était le début de notre collaboration ensemble pour, comme il disait, créer, c'est-à-dire s'inspirer mutuellement. Lui, il cherchait des idées de texte, il me donnait des idées de musique, etc. Et puis, on s'alimentait comme ça. Et certains titres, certaines prises de voix sont restées telles quelles. C'est-à-dire qu'il y a certaines prises de voix que je ne lui ai pas refait faire par la suite. Et après, pendant ces 2-3 ans, on a de 2015 à 2018, on a vraiment travaillé en pensant album, petit à petit, jusqu'à arriver à l'étape de réalisation, d'arrangement, refaire les voix, d'autres voix, et des choses comme ça. Et cet album n'est pas totalement posthume, puisqu'on l'avait terminé du vivant de Rachid fin juin 2018. L'album était terminé, mixé, masterisé en juillet. Et malheureusement, Rachid est parti en septembre, donc on a décidé avec son fils à ce moment-là de...
L'IS.
Avec l'IS, voilà, de prendre plus de temps pour le sortir. Et c'est pour ça qu'il sort maintenant, un an après. Quoi.
Quelle a été votre première rencontre? Alors, je ne parle pas professionnelle, votre rencontre, j'allais dire, plutôt musicale. Vous, en tant que musicien, qu'est-ce qu'a représenté Rachita quand vous étiez plus jeune? Vous êtes un petit peu plus jeune que lui, vous étiez.
On a une demi-génération d'écart, tous les deux. Moi, ce qui m'avait marqué, c'est... Bon, évidemment, j'ai connu...
Carte
de séjour et son avènement médiatique, sans non plus écouter spécialement Rachid Taha. Pour moi, il faisait partie du paysage musical parce que j'étais sûrement dans d'autres musiques à ce moment-là et moins sensible à ça. Mais quand est sorti des années après un 2-3 Soleil, à l'époque, moi j'étais dans le punk Et c'était vraiment une énorme escroquerie. 1, 2, 3 soleils, je voyais ça comme... Parce que j'étais dans le punk et puis j'étais de Ménilmontant en même temps. Donc les musiques maghrébines, etc., je connaissais ça. Et il y avait quelque chose que je trouvais un petit peu abusé. Bon voilà, genre grosse machine à sous. Enfin, je voyais le truc comme ça. Et quand j'ai vu les images live d'1, 2, 3 soleils, Rachid m'a... Quelque chose s'est passé, je dois reconnaître, parce que j'avais l'impression de voir un punk dans l'histoire qui avait rien à faire là-dedans. Je voyais le rocker là-dedans. La première image que j'ai de Rachid, c'est celle-là. C'est l'image d'un rocker au milieu d'une grosse machine à sous, quoi.
Algérien a déclaré, ça c'est une des petites blagues que Rachid faisait. Sur le premier titre, Je suis africain, c'est une longue mélopée, quasi comme un monologue, en égrenant des noms qui ont été importants dans sa vie. Vous vous souvenez de cet enregistrement, de cette prise de son?
Sur quel titre?
Je suis africain.
Alors oui, bien sûr, Je suis africain, c'est arrivé sur une des premières séances, sur la première ou la deuxième. Sur la deuxième séance, c'est arrivé sur la deuxième séance, c'est très simple. On s'était revu au décès de Rémi Colpacopoul,
qui était un producteur, animateur, journaliste à Libération historique, qui a surtout été un grand connexionneur, qui faisait des nuits à Paris, enfin bref, un mélomane des plus aboutis, et dont la disparition a laissé beaucoup de musiciens orphelins.
Exactement, dont Rachid et dont moi. Donc on était ensemble à ce moment-là, on buvait des coups, et Rachid me tient ce discours à ce moment-là. C'est-à-dire qu'il me dit, tu sais, moi je suis un Africain du Nord, Africain du Sud. Il commence à me raconter tout ça, et puis il commence à extrapoler, et puis à me dire que de toute façon, on est tous Africains, on descend tous de Lucie, etc. À me dire, tenir un grand discours. Et moi, à ce moment-là, j'avais remarqué que Rachid, il manquait souvent sur le moment, quand on enregistrait, d'idées. Donc je commençais à noter quelques idées sur le côté, dans un petit coin de carnet. Et donc j'ai noté ça, j'ai noté Rachita, je suis africain, dans un carnet. Ce qui fait que quand on s'est revu chez moi après, et que Rachid me dit Thomas, donne-moi un texte, donne-moi une idée, donne-moi quelque chose pour qu'on parte sur une impro, je lui dis Rachid, la dernière fois tu m'as dit je suis africain. Et je redis ce qu'il m'a dit et je lui dis, ça pour moi, Rachita chante Je suis africain, c'est un tube. Donc je prends ma guitare, je trouve le petit riff de guitare, une petite boucle de percu, et puis Rachid commence à improviser là-dessus en chantant la voix qu'on connaît aujourd'hui, Je suis africain, etc. Et puis en improvisant comme ça, on a fait une longue impro de 15 minutes sur cette thématique-là, que petit à petit j'ai organisé pour en faire une chanson, et puis je suis revenu voir Rachid, et puis on a sédimenté ça.
Quand vous avez enregistré Andy Walou, est-ce que vous avez pensé à David Bowie qui susurrait sur une chanson Warhol, Andy Warhol, Warhol? Est-ce que ça vous dit quelque chose?
Bien sûr, ça me dit quelque chose, mais ça ne s'est pas fait dans cet ordre-là. Andy Walou, il a été fait à la première séance d'improvisation qu'on avait fait chez moi. C'était aussi à cause d'un décès, c'était cette fois celui de Lemmy de Motorhead. Et Rachid me dit, Thomas, je veux faire un hommage à Lemmy, vas-y, fais-moi un morceau métal sur un accord. Et donc je commence à prendre ma guitare et tout, 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 tout. Puis je fais ça voilà, pendant des heures avec assez peu de choses. Et puis Rachid, il commence à enchaîner là-dessus. Tu connais Halley Gibran, tu connais machin, tu connais. Est-ce que tu... Et puis là, j'ai un morceau de 15 minutes qui va dans tous les sens, où il n'y a pas de refrain, qui est totalement survolté, avec plein de noms de rockers, d'intellectuels, plein de choses qui passent comme ça, espèce d'image à 100 à l'heure. Je ne sais pas quoi en faire, honnêtement. Et quelques mois plus tard, c'est Iva Wizerat, qui était son dernier manager, tour manager et ami, qui nous a accompagnés sur tout cet album-là. C'est Yves qui me dit, Thomas, file-moi les pistes de ce titre-là, je vais en faire quelque chose. Et c'est lui qui a organisé le morceau tel qu'on le connaît aujourd'hui. Il a complètement retaillé les 15 minutes pour en faire une chanson. Il me l'a représenté à ce moment-là. Et à ce moment-là, j'ai trouvé le refrain. Parce que ce jeu de mots, Andy Walou, Andy Warhol, Andy Walou, ce qui veut dire Andy Warhol, il n'y a rien, c'est un jeu de mots que Rachid disait souvent dans la vie. Donc pareil, c'est comme Je suis africain, je l'avais noté sur un coin, je lui ai dit, tu sais, ça ferait un bon refrain pour ton morceau rock, comme une espèce de critique du pop art et de la consommation au milieu de tous ces rockers et tous ces trucs. Bon voilà, je lui ai proposé ça, ça lui a bien plu, on est parti là-dessus, quoi.
Est-ce que tu connais Oum Kertoum?
Andy Wallou, cet extrait du dernier album, du nouvel album de Rachid Taha. C'est le 11e album, il y a 11 titres. Vous parliez des gens qui ont marqué Rachid Taha, en tout cas sur ce morceau. Alors évidemment, il y a du Johnny, on entend Johnny Cash, Oum Kalsoum, Andy Warhol, Andy Wallou, Khalil Gibran, le prophète, pensez. Rachid Taha était dans quel état d'esprit quand il a enregistré cet album avec vous? Parce qu'il y a des nouveautés là sur ce disque. Il nous fait du Franck Arabe à la Lili Boniche sur le titre Minouche. C'est un peu désuet, c'est un peu naïf, c'est la chanson des années 50-60, c'est très drôle. Il chante en anglais, Like a Dervish. Alors, il chante en anglais, évidemment. Il avait une envie particulière ou c'est vous qui notiez à chaque fois et vous lui faisiez des propositions?
Non, il avait vraiment beaucoup d'envie. On a vraiment passé plus de deux ans et demi à rechercher toutes ces ambiances-là, à passer du temps. L'idée, c'était que... moi, j'arrivais... on a commencé chez moi, en fait. On a commencé à enregistrer au salon. D'abord.
Vous habitez Paris ?
J'habite Paris, dans le 20e. Lui était au Lila, donc c'est pas très loin.
Un petit périph.
Même à pied, voilà, c'est juste un petit périph à traverser. Il arrivait à la maison. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui ? On branche la guitare, on met un casque, fais-moi un truc joyeux, je lance un truc joyeux, il lance une impro. Ça s'est fait comme ça. Et puis on parlait de tout, de politique, de cinéma, de beaucoup de choses. Il me racontait toute sa vie, tous les détails de sa vie, il me montrait beaucoup de musique sur YouTube, il m'ambiançait tout le temps, parfois en plein milieu d'une prise. On était en train d'enregistrer, d'un coup il fait attends, et puis boum, là il fait lecture, il me lance de la musique indienne, de la musique country, je sais pas, plein de choses comme ça. Il m'ambiançait, il cherchait à m'ambiancer pour que je baigne dans son univers en fait totalement, pour que ce qui sortirait de moi soit ce qui sort de nous en réalité. Donc cet album s'est fait vraiment de cette façon là et sur les paroles, voilà, moi ce que je notais c'était juste ce qui concernait les paroles, ce qui sortait de sa tête à lui, qu'il pouvait dire facilement en parlant, mais qu'il n'aurait pas forcément l'idée de ressortir au moment de chanter. Voilà en gros comment on a créé chez moi, chez lui, au salon. On a enregistré un maximum de choses en restant comme ça. Et puis un jour on est descendu dans son studio en bas de chez lui. Il avait un studio au sous-sol et là il chantait moins bien. Et je lui dis, Rachid, on va remonter tout, on se remet au salon et on va continuer au salon. Et ce que je cherchais à sortir sur toute sa voix et de sa sensibilité, je lui ai dit, je veux pas que t'en fasses des tonnes comme tu peux faire en concert, etc. Ça c'est du live. Je veux que tu fasses un album de crooner punk oriental. Et ça lui plaisait. Il ouvrait grand les yeux. Et puis ah bon, tout ça. Il dit, puis mais je vais te la faire à la Michel Simon alors. C'était sa réponse au crooner punk oriental. Et voilà, donc c'était vraiment une collaboration totale. Il a vu, je pense qu'il a vu en moi un canal, un moyen de faire accoucher ce qu'il avait envie qu'il sorte, en gros. Et effectivement, je l'ai fait avec grand plaisir parce que finalement, tout son univers musical, intellectuel, etc., c'est le mien. C'était le mien avant même que je le connaisse et on se retrouvait vraiment là-dessus, comme si finalement on s'est connus 10 ans avant qu'il parte. Mais c'est comme si on se connaissait depuis toujours. Dès qu'on s'est connus, on a tout de suite été très... comme si on se comprenait surtout.
Et une biographie qui lui a été consacrée il y a une dizaine d'années, vous l'avez lue ?
Non, je ne l'ai pas lue. Je l'ai vue traîner une fois chez lui, et puis quand j'ai voulu lui emprunter, il l'a perdue.
Il raconte l'histoire de son passeport, pourquoi il n'a jamais demandé la nationalité française. Enfin, c'est recontexté, c'est très intéressant, c'est assez douloureux aussi. On va écouter Like a Dervish, et on va voir que finalement l'école, c'est pas si mal, que les cours d'anglais, ça laisse des traces.
My first song in English. Oula, oula, je sais que je triche. My English is not so rich. This is my first song in English. I wanna turn like a dervish. Travel the world with my bakshish. Swim like a goldfish. Oula, oula, merlish.
Que Derviche, cet extrait du nouvel album de Rachida, c'est un album posthume, pas la production, puisque tout a été terminé en juin 2018 et Rachid est parti dans une autre dimension le 12 septembre 2018. Notre invité, c'est Thomas Fetterman, qui est son réalisateur sur cet album. Vous avez pris la suite de Stevie Lage, après le britannique ex-gong. Ça met pas forcément la pression, parce que si Rachida vous a choisi, c'est pour des raisons particulières. Qu'est-ce qui lui a plu chez vous? Est-ce qu'il vous a parfois parlé de vous pendant que vous répétiez? Est-ce que c'était votre passé de punk? Est-ce que c'est la Caravane Pass, votre autre groupe, ce côté Balkan, enfin je sais pas.
Ouais, c'est un petit peu tout ça. Je crois qu'il, comme je disais, dès qu'on s'est rencontrés, dès le départ, ça a accroché. C'est-à-dire que si l'un disait quelque chose, l'autre voyait exactement la référence et c'était comme ça tout le temps. On avait une culture très, très similaire, très générale. Dans tous les arts, dans le cinéma, dans beaucoup de choses, on se retrouvait, on se comprenait tout de suite. S'il me sortait une musique, je la connaissais déjà, je savais là où il voulait en venir, on partage cette passion tous les deux des musiques du monde, donc voilà, il y avait quelque chose de naturel comme ça, et puis en même temps, comme je fais des sons modernes aussi, et des choses plus modernes, ça lui plaisait aussi, de pas se dire je vais faire quelque chose rock trop à l'ancienne, tout ça. Bon, je pense que c'est tout ça qui fait qu'on s'est retrouvés, quoi.
Comment on réagit quand on vient de terminer un album avec un artiste, que cet artiste disparaît quelques semaines plus tard, on se retrouve avec un album sur les épaules, une maison de disques? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Est-ce qu'il y a déjà le chagrin? Évidemment, le deuil, la perte, c'était inattendu pour vous?
Quand c'est arrivé, c'était inattendu. Ce qui est difficile avec quelqu'un comme Rachid, c'est que c'était quelqu'un en mauvaise santé. Et quand j'ai accepté de réaliser cet album, d'abord j'ai pris du temps pour accepter. Entre faire des chansons et des créations ensemble et réaliser un album, c'est pas le même travail. J'ai pris du temps parce que ça demande beaucoup de temps et de disponibilité que j'ai pas beaucoup. Et puis je connaissais Rachid, je savais que ça allait être compliqué et complet. Mais finalement, quand j'ai accepté, on avait quand même conscience qu'il était en mauvaise santé. Donc on se dit, peut-être qu'on n'ira pas au bout, parce que certains jours, ça allait vraiment pas. Et puis finalement, le Rachid était quand même assez étonnant par sa force et sa vigueur. Donc d'un jour à l'autre, on oubliait complètement qu'il était malade, même s'il avait du mal à se déplacer, des choses comme ça. Si bien que quand on a fini l'album, on avait oublié qu'il était quand même très malade. Et effectivement, quand c'est arrivé, ça a été une mauvaise surprise, on peut dire, et quelque chose de très douloureux. Ensuite, ça a été compliqué parce que, effectivement, on se dit, voilà, on a tant d'années de travail ensemble qui n'est pas sorti, comment ça va sortir? Qui peut défendre l'album encore, sachant que lui était en contrat avec le label, mais le DA, Victor Michberg, qui suivait le projet, elle n'était plus dans le label déjà à ce moment-là. Yves n'avait pas de contrat, je crois, ou quelque chose comme ça.
Son dernier manager.
Voilà. Donc il n'y avait pas grand monde pour défendre l'album. Donc c'est pour ça que j'ai proposé mes services à l'IS et au label en disant, voilà, je veux j'ai fini mon travail, mais je reste dans l'histoire pour faire en sorte que les choses aillent dans le sens de ce qu'on a mis en place avec Rachid.
Vous avez choisi le dernier titre qu'on va passer pour cet entretien, que l'on va passer dans cette émission. Vous avez choisi le titre Happy End, parce que vous pensez que c'est une grosse farce. Enfin, c'est quoi ?
Happy End, c'est le premier morceau dans lequel j'ai cru. Et c'est le premier morceau qui m'a révélé ce qu'on pourrait faire ensemble avec Rachid sur cet album. On l'a fait pendant cette première session d'improvisation dont je parlais. Donc une nuit, on fait 12 titres comme ça. Au début, on s'amuse un petit peu. Et puis à un moment, il me dit, Thomas, fais-moi une grosse kitscherie. Fais-moi un truc, un slow à l'ancienne qui bave, qui dégouline, tout ça. Tu vas voir, j'ai une idée d'impro. Et donc, je commence à lancer ces accords-là. Et puis lui commence à chanter le texte. Et le texte et la voix, tout, sont ceux de la première séance. Je ne l'ai jamais fait rechanter ce morceau. C'est son improvisation de départ là-dessus. Et à ce moment-là, j'ai vu... Ce que j'aime en fait dans ce morceau, c'est que ça me parle complètement, c'est du grandiose ridicule, et j'adore ça. J'adore quand on est à la frontière entre faire tomber le décor et se rendre compte qu'on est que des clowns en réalité, et en même temps on est des héros tragiques. Voilà, c'est cette frontière entre le clown et le héros tragique que j'aime, et je trouve que cette chanson, elle respire ça, elle respire quelque chose de beau, en même temps de drôle, de triste, en même temps de joyeux. Voilà, pour moi c'est la chanson où il y a le plus d'émotions. Sur l'album, bien qu'elle soit effectivement d'une kitscherie hallucinante.
Merci Thomas Vetterman, pour Rachita. Et Rachita, qu'on n'oubliera pas. Thomas Vetterman était notre premier invité pour parler du nouvel et dernier album de Rachita, Je suis africain. Batlik nous honore de sa présence pour la sortie de son nouvel album L'art de la défaite. Alors, quand on va jeter un œil sur son site, on peut lire « Il est l'une des plus belles anomalies de la chanson française ». Super. Plus il y a de fous ici, moins il y en a ailleurs et vous n'en saurez pas plus. En tout cas pour le moment. Batlik est en piste avec ses musiciens et le titre précisément « L'art de la défaite ». Et comme dirait son nouvel ami Émile Cioran, le seul service que nous pouvons demander aux autres, c'est de ne pas deviner à quel point nous sommes lamentables. Ne vous inquiétez pas Stéphane Batlik, ça va raisonnablement mal se passer, mais ça va se passer. Bienvenue à bord.
De la ville est avare en nombre l'été. C'est là rend indocile. Il faut une raison pour y aller, raison d'aller là, pour aller monter
tout là-haut comme ça. Il y marche comme un long vol, l'air de ne pas y toucher, mais le moindre bruissement l'affole. L'effet sera découragé, revenir sur ses pas, et puis recommencer à requitter l'en bas. C'est que tout l'autour l'attire, c'est ce que ses sens lui disent, que tout son latin se divise, aux volets bleus et entrouverts, ouvrez l'ouvert. Ce à quoi il renonce en faisant marche arrière. C'est tout l'art de la défaite, ça tient dans un demi-tour, demi-tour. Tout l'art de la défaite est là, dans ce demi-tour, sur soi.
Batlik sur RFI dans les musiques du monde.
Musique du monde. La session live. Sur RFI.
Batlik avec le titre L'art de la défaite, c'est aussi le nom du nouvel album, le 12e album ou 11e album studio si on compte le live. Batlik était à la guitare et au chant, Alice Animal à la guitare, Virian C à la basse et Joanne Guidou à la batterie, tout le monde dans les chœurs évidemment. Alors l'art de la défaite, Stéphane, parce que c'est votre petit nom, est-ce que c'est un résumé de votre vie rêvée? Est-ce que c'est un résumé de la fabrication de cet album? 3 ans sans disque de votre part, c'est assez rare. Est-ce que c'est un résumé de votre carrière musicale, de vos lectures qui peuvent être drôles ou cyniques?
C'est un résumé de chacune de ces choses, individuellement et aussi prises toutes ensemble. C'est un résumé de tout ça. Tout ce que vous avez dit peut être résumé par cette citation, l'art de la défaite.
L'art de la défaite, vous l'avez joué en Avignon l'année dernière. Vous avez donc cassé ces morceaux, vous avez sorti l'album un petit peu plus tard. C'est un disque qui arrive 3 ans après le dernier, comme je disais en introduction. Au cours de votre carrière, vous avez sorti des albums quasiment tous les ans. Et là, il y a une pause. Est-ce que c'est pour des raisons financières ? Mais est-ce que vous avez bougé dans votre manière d'écrire, de composer ?
Un peu de tout ça. Il y a des raisons financières, mais qui sont plutôt bonnes. Pour ce disque, j'ai eu plus d'argent pour les fois d'avant. Notamment grâce à la Dami qui m'a fait disposer d'une aide qui s'appelle 365 et grâce à laquelle j'ai pu me tempérer, prendre mon temps, travailler avec des gens avec lesquels je n'avais jamais travaillé avant, faire les choses étape par étape et plus dans cette espèce de cacophonie dans laquelle j'avais l'habitude de travailler avant. Avec des choses qui se faisaient dans le désordre, ce qui devait venir en partie A, arriver en partie C, ce qui devait venir en partie B. Voilà. Là, j'ai fait les choses dans l'ordre hein, en prenant le temps de les faire.
Votre producteur, c'est Jean Lamothe. Jean Lamothe, pour le grand public, c'est Alain Bachung, mais c'est pas que, c'est aussi un féru de musique africaine. Qu'est-ce qu'il a révélé chez vous, ce producteur-là ?
D'abord, la rencontre était superbe, parce que j'avais peur de travailler avec quelqu'un que je ne connaissais, j'allais dire pas, mais en tout cas que par le son, les sons qu'il avait produits. Et ça a été une très belle surprise. Et ce qu'il a réussi à révéler, je ne pourrais pas le citer, je ne pourrais pas expliquer ce que c'est, mais entre le moment où les morceaux sont arrivés chez lui et le moment où ils en sont ressortis, ce que ça avait gagné, ce qu'il avait réussi à transformer, ce qu'il avait apporté aux morceaux, je ne sais pas, ça s'appelle une substantifique moelle, aussi ça a à voir avec l'art, et ça a à voir aussi avec un engouement, je pense qu'il a été content de travailler sur ce disque, et ça a été le cas de pas mal de gens, et pour le coup, le fait d'être heureux de travailler sur quelque chose, je crois que ça apporte quelque chose qui nous échappe, mais qui est bel et bien là.
Le titre de cet album, L'Art de la Défaite, ça peut sonner comme une fin de règne ou comme une carrière brisée, mais je pense que c'est une forme de pessimisme assumé. Ces 10 titres font référence peut-être au premier ouvrage qu'Émile Cioran a écrit en français, qui était le Précis de décomposition, donc un essai évidemment d'une rare lucidité, mais d'une grande cruauté aussi. Qu'est-ce que Cioran vient faire dans votre vie ? Vous le lisez depuis que vous êtes petit, vous l'avez découvert en cours de route ? Est-ce que vous avez fait une psychanalyse ? Parce que c'est un mec étrange.
Il a rompu avec une espèce de mythe familial que je m'étais construit et qui avait à voir avec la raison pour laquelle j'avais fait de la musique. Ce mythe familial, il tournait autour d'une des dernières phrases qu'avait prononcées mon grand-père avant de mourir et qui était « La musique, le refuge des âmes ulcérées par le bonheur ». Et j'avais toujours attribué cette phrase-là à mon grand-père. Donc, et c'est ce qui, pour moi, avait fait que j'étais devenu musicien. Et il y a 2 ans de ça, je lis un livre de Cioran et je lis cette phrase. Et je me rends compte que cette phrase n'a rien à voir avec ma famille, qu'elle n'a rien à voir avec moi, du coup. Et j'ai eu une espèce de dépersonnalisation de ce pourquoi je fais de la musique depuis 12 ans.
Mais votre grand-père, je sais qu'il a quitté ce monde lors de votre voyage en Algérie, quand vous étiez partis ensemble.
On n'était pas en Algérie, en fait. Enfin, c'est vrai que ça s'est immiscé dans la biographie. Je ne sais pas, il faut que je le corrige.
Corrigez-le, voilà. Parce que je l'ai lu, je l'ai cru.
Et c'est vrai. Non, on était en France. Le rapport à l'Algérie, c'est parce qu'il s'est étouffé avec un morceau de pastèque. Et c'est un Algérien qui m'a fait la retranscription du mot pastèque, qui se dit « bâtir ». En arabe. Et alors, est-ce qu'il écrivait très mal ? Est-ce que j'ai mal lu ? Je ne sais pas. En tout cas, moi, j'ai lu Batlik, ce qui était à l'origine de mon nom de scène.
Est-ce que vous aviez lu Cioran avant, en dehors du Précis de décomposition ? Il y a de l'inconvénient d'être né, les syllogismes de l'amertume, ouais, qui sont absolument savoureux.
J'avais vu quelques syllogismes comme ça. Je ne savais pas qui lui appartenait, si ce n'est l'inconvénient d'être né, et que je trouve que c'est vraiment un titre merveilleux. Bon, après, je me suis penché sur son œuvre et aussi beaucoup sur les entretiens qu'il avait eus, des livres qu'il avait à voir. Sur sa vie, parce qu'il déclinait aussi, hein. Il y avait cette pensée, mais du coup ça débordait dans sa manière de vivre, dans sa manière d'être. Donc j'ai pas mal lu d'œuvres autour de Cioran, et je l'ai fait après m'être rendu compte de cette erreur d'attribution.
Oui, enfin je sais pas si ça faisait écho chez vous, si ça résonnait, si ça vous parlait, mais il est parti de Roumanie dans les années 40, c'est un exilé qui est apatride, hein. Il a jamais demandé la nationalité française et les gens qui restaient en contact avec lui, en tout cas par écrit, ont été très ennuyés par le stalinisme de l'autre côté, ils ont été torturés, la famille, les proches, etc. Donc ça donne aussi une idée de son écriture, ce qu'il portait sur les épaules.
Ouais. Ouais. Puis le rapport à la langue aussi, il a épousé la langue française, il a écrit en français juste après ses premières œuvres. Il en parle beaucoup, cette espèce de façon dont il est tombé dans la langue française.
Vous êtes tombé dans le créole batlikien, vous, hein, parce que des fois j'ai l'impression d'être à l'île de la Réunion quand je vous entends chanter. Ou alors au Moyen-Âge, j'hésite entre François Villon et le Maloya.
Et vous pouvez rajouter, parfois on me demande si je suis canadien aussi.
Ah ouais, oui, on me dit ça. Oui, 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 oui. Du coup, côté de Saint-Jean, ça marche. Garde-fou, c'est un extrait de votre tout nouvel album, L'Art de la Défaite. On l'écoute en session studio, donc comme ça on écoutera le travail de Jean Lamothe. C'était le titre Garde-fou, cet extrait du tout nouvel album de Batlick qui s'appelle L'Art de la Défaite. Il y a dans le refrain un mot qui revient souvent, c'est Fury Favorisa. Je ne sais pas trop ce que c'est. En tout cas, ma Béatrix Kiddo, ça me dit quelque chose. Ça fait un peu Kill Bill de chez Tarantino. Et je mets la dédicace à la fin, deux femmes dans votre vie, Elsa et Rita. Ce morceau, c'est une déclaration d'amour ?
Exactement, c'est une déclaration d'amour qui inclut à la fois l'horreur et l'extase, pour reprendre les termes de Suran. cet équilibre dans le couple entre ces deux choses-là, qu'il ne s'agit pas de bannir, je parle de l'horreur complètement, mais d'inclure en gardant un équilibre avec l'autre côté.
En parlant d'amour, je crois que c'était, enfin j'en suis sûre, c'était dans les syllogismes de l'amertume de Suran, et il a une définition très amusante qui va beaucoup vous plaire. Il dit que l'amour est un sentiment moins vulgaire qu'il n'y paraît parce qu'il a survécu au romantisme et au bidet. Ça vous plaît ?
C'est pas moi
qui l'ai fait.
C'est très lui. C'est très beau. Bravo.
Alors, Elsa, c'est la femme de votre vie, Rita, c'est votre fille.
Exactement.
Donc votre vie a changé.
Oui, avec ça a participé aussi, je pense, à ce rapport au temps. Et à ces 3 années passées sur ce disque, il s'agissait de bien faire. Maintenant qu'on était regardé par deux perdus, il s'agissait de s'appliquer. Peut-être plus qu'avant.
Et de femmes qui sont 2 diamants pour vous. Votre écriture a évolué aussi. À vos débuts, Batlick, vous aviez plutôt une écriture, non pas de révolutionnaire, mais vous étiez dans la revendication. Aujourd'hui, c'est le mot qui vous intéresse, le mot pour le mot, ou le mot qui a encore un sens.
C'est-à-dire qu'en tout cas, je me suis éloigné du discours. J'avais l'impression d'avoir adopté un discours et il s'agissait là de se laisser conquérir par les mots plutôt que d'essayer de les conquérir soi-même. À l'arrivée, j'ai l'impression, en tout cas en ce qui me concerne, que ça met plus d'envergure, plus d'ampleur au texte. Quant à vous aviez bon hein, sur Kill Bill et Tarantino, c'est bien elle,
ouais.
Béatrix Kiddo, c'est
bah
ça
oui,
c'est
celle qu'on enterre vivante et qui s'en sort parce qu'elle a pris des cours de kung-fu chez un vieux japonais complètement folle dingue.
Et le thème de la vengeance qui ne cesse de me hanter, dans chaque disque, il s'agit que je traite de ce thème-là, je n'arrive pas à m'en départir.
Humour aussi, je suis allée sur votre compte Instagram, alors il y a des gens qui ont fait vous avez fait un concours de parodie de pochettes de disques, on pouvait gagner un voyage de 2 ans en Guinée, merci. 600 tuiles plates à venir chercher au dépôt à Dijon, on pouvait gagner aussi un porte-avions.
C'est vrai.
Vous faites des photos, on voit un pneu crevé, la légende c'est « Alors, les vacances ?» point d'interrogation, ou alors on voit un cochonnet qui est en train de grimper un agneau avec la légende « Les enfants sont formidables ». Mais dites-moi, qu'est-ce qu'on doit conclure, Monsieur Batlick ?
On doit conclure que j'ai une double vie. Non, je travaille avec une agence de communication sur Internet qui ne cesse de me dire « Il nous faut du contenu ». Devant cette demande, je n'ai trouvé que l'humour pour répondre à cette demande parce que j'arrivais pas à trouver autre chose.
Alors vous avez de l'humour et vous avez aussi de la décoration. J'ai regardé vos avant-bras dans une semi-obscurité. Vous avez tatoué les ouïes du violoncelle et ça rappelle cette photo de Man Ray qui avait photographié Kiki de Montparnasse qui était sa maîtresse, sa muse, enfin qui était la muse de pas mal de gens. Et puis j'ai regardé votre pochette de disque. Évidemment, ça m'évoque Man Ray, un homme qui se regarde de dos dans la glace avec la chemise à l'envers et quand il se voit dans le miroir, il est également de dos. Donc en fait, c'est le mouvement surréaliste qui remplit votre vie. Vous les avez sur les avant-bras, on les a sur votre disque.
Alors moi, je suis responsable des avant-bras. Sur la pochette, c'est Pierrick Guidou qui s'en est chargé. C'est son côté surréaliste à lui. Moi, je ne l'avais pas fait pour les ouïes tatouées. C'était plutôt au contraire, quelque chose qui avait un rapport à une forme de réalisme. Il s'agissait de me convaincre de devenir musicien. Comme je suis devenu musicien sur le tard, j'ai mis longtemps pour y croire. Hein, à cette fonction. Du coup, ça a participé à cette croyance. Je m'en rappelais quand je suis devant un miroir et que je me gratte la tête, je vois le tatouage et je me dis, tiens, c'est vrai, c'est mon métier. Maintenant, ça va, j'ai intégré. Mais...
Et le chien Raoul, comment va-t-il ?
Il va très bien, il se porte bien pour un chien qui a une dizaine passée, mais il est toujours là.
Il monte sur scène, toujours ?
Et il monte plus sur scène parce que je pense que les chiens, enfin, en tout cas lui, il a développé un problème d'ouïe. Dès qu'on franchit un certain volume sonore, il aboie.
Ah, il hurle à la mort ou il aboie ?
Là, il aboie. Il aboie, ce qui fait rire les 10 premières secondes et ce qui après peut être assez handicapant en concert. Donc il est dans les loges maintenant et voilà, il a pris ce parti pris d'aller dans les loges. En fait, le son s'est mis à le déranger. Mais c'est un chien qui était effectivement souvent sur scène et qui avait la particularité, on devrait, de connaître les setlists. C'est-à-dire qu'en fin de tournée, il savait lorsqu'il y avait lieu les rappels. Et si on rajoutait un morceau dans la setlist, il était perdu.
Je vous soupçonne d'avoir une affection particulière pour le monde animal.
Je remplacerai affection par compassion.
Compassion.
Oui, voilà, c'est mon petit côté. Je sais pas ce que c'est comme côté. Mais en tout cas, je peux assez vite avoir la larme à l'œil face au monde animal.
On va terminer cette émission avec un morceau que vous allez interpréter en studio avec vos musiciens, donc Alice Animal à la guitare, Viriane C à la basse et Joanne Guidou à la batterie. C'est le titre Avalanche. Vous voulez me dire un mot, même plusieurs, même des phrases complètes sur ce morceau ?
Cet album-là, il a à voir avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, il a à voir avec cette espèce de chose qui était enfouie sous la phrase de ce que je croyais être une phrase de mon grand-père, mais qui en fait n'était pas de lui. Donc je pense que Suran était là quand même avant. En tout cas, sa pensée, sa façon de voir le monde, quand je l'ai découvert En les lisant, c'était quand même familier. Et finalement, c'était encore plus familier, peut-être, que la phrase de mon grand-père ou que de mes proches. Finalement, j'ai trouvé une familiarité avec Sioran qui était plus importante que j'avais avec beaucoup de proches autour de moi. Et à propos de ce morceau, donc ça parle de ce qui est caché, de ce qui est enfoui. Et je citerai une phrase de Sioran qui disait « On n'écrit pas parce qu'on a quelque chose à dire, mais parce qu'on a envie de dire quelque chose. Hein » Donc ça a à voir aussi avec l'envie. Et c'est ce qui est dessous, quoi. Ce qui est dessous et qui est bien vivant pourtant, ce qui fait des formes qui sont effacées par la neige qui tombe. Et c'est le moment où j'ai lu cette phrase-là de Sioran, le moment où j'ai découvert qu'il y avait eu méprise, ça m'a fait un peu l'effet d'une avalanche. J'ai senti qu'il y avait une espèce de manteau là, qui tombait et qui découvrait les aspérités sous-jacentes.
Heureusement qu'elle a été là pour vous rattraper.
Bien sûr.
Mm-hmm. Vous rejoignez vos musiciens et je vous remercie. Vous les embrassez pour moi. Ils sont au fond
Merci
de la salle. Merci. Batlik sur RFI avec le titre Avalanche. Évidemment, Batlik est à suivre partout en France puisqu'il est en tournée.
Faux, ça n'est pas caché.
Faux,
ça n'est pas caché.
Faux,
ça n'est pas caché.
Faux,
ça n'est pas caché.
Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde en se disant un quoi, bah c'est ça. Ça se sent, tu sais, ça ne se voit peut-être pas, mais ça se perçoit. Mais si, parfois, au détour d'une phrase que tu dis quand tout le monde se regarde. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les temps sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. C'est là, ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça déteint sur toi comme un peu de chine. T'as même plus besoin de parler, c'est encore là, ouais. Ça se voit, tu sais, maintenant ça se voit même très bien. C'est très net, ça déteint sur toi comme un peu de chine. Regarde juste là, t'en as. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. C'est là, y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi ou pas, c'est toi. Y'a plus que ça, tu sais, t'as disparu derrière ou dans, on sait pas, mais t'es plus là. Y'a plus que ça, tu sais, tellement qu'on se demande si c'est ça, mais c'est toi. Ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Faux, ça n'est pas caché. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Malgré les apparences, vit le bleu sous le beige. Malgré les avalanches, vivent les formes sous la neige. Fou, ça n'est pas caché. Malgré les apparences, ça n'est pas caché. Malgré les avalanches, ça n'est pas caché. Malgré les apparences, ça n'est pas caché. Malgré les avalanches. Ça n'est pas caché, malgré les apparences. Ça n'est pas caché, malgré les avalanches. Ça n'est pas caché, malgré les apparences. Ça n'est pas caché, malgré les avalanches.
Batlik et Thomas Fetterman pour Rachita étaient nos invités aujourd'hui dans ces musiques du monde. On se retrouve demain pour la session live spéciale reggae.